France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthès.
Bah les masques, enfin, même si on va discuter ensemble des dangers peut-être de tomber le masque à l'extérieur, bien sûr, mais n'allez pas me dire que vous n'êtes pas un peu heureux quand même, nous l'avons sur le nez depuis le 28 août. Ce masque, l'enlever, c'est un palier et ça compte. Quant au couvre-feu qui prendra fin dimanche soir, là aussi, surprise du chef, puisque nous avons une grosse semaine d'avance par rapport à ce qui était prévu. Nous étions en couvre-feu en France depuis le 17 octobre, sans discontinuer. C'est long. Est-ce que c'était d'ailleurs tenable de rester même à 23h après Roland-Garros, après l'Euro qui est en cours, alors que c'est l'été, bien sûr, et que le taux d'incidence, objectivement, est tombé à des niveaux qui ressemblent à ceux de l'été dernier. L'ancien seuil d'alerte, c'est dire si nos critères ont bougé depuis plus d'un an, et c'est bien normal. Critères de l'été, donc, ça ne nous a pas échappé, critères d'avant la deuxième vague. Sauf que cette fois-ci, nous avons un vaccin, et c'est ça qui est intéressant à surveiller. Est-ce que notre taux de vaccination, trop bas, certes, pour l'instant, mais nous épargne une quatrième vague à venir ou pas? Est-ce que nous pouvons échapper à une vague de ce variant indien Delta, qui nous pend au nez, bien sûr, quand on regarde nos voisins anglais, par exemple, qui s'inquiètent, mais qui, faut-il le rappeler, n'ont jamais eu de couvre-feu comme nous, ni d'ailleurs de port de masque obligatoire partout, comme nous l'avons eu. La pression, en tout cas, est relâchée, c'est clair. Alors, est-ce que le réflexe, ce sera d'aller se faire vacciner pour qu'on en finisse? Est-ce qu'au contraire, ce sera de ne pas le faire puisque ça va mieux? Il y a quand même beaucoup d'enjeux derrière cet assouplissement, même s'il nous fait plaisir, et on en parle ensemble. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Le premier, c'est vous, Guy. Soyez le bienvenu et bonsoir.
Bonsoir, Fabienne. Et toujours aussi dynamique, France Inter. Merci de prendre ma question. Voilà, c'est une question qui est un peu timorée, qui a une certaine crainte, comme vous l'avez très bien exposé. Le fait de relâcher le ressort, est-ce que ça ne va pas? Disons, l'association du couvre-feu qui disparaît, du port du masque qui disparaît, ne va-t-il pas favoriser une quatrième vague pour septembre-octobre? Et aussi, est-ce que dans les questions subsidiaires, est-ce que dans cette amélioration qui est nette, hein, qui est très bien, est-ce que la température, la météo que nous venons de subir depuis un mois, il n'y est pas pour un peu quelque chose aussi?
Eh ben, voilà trois questions dans une, dites-moi Guy. Merci beaucoup, ça nous permet de démarrer joliment. Merci mille fois pour répondre à toutes vos questions, discuter ensemble jusqu'à 20h. Frédéric Adnet avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef des urgences à l'hôpital Avicenne, c'est à Bobigny. Et Benjamin Davido est là également. Bonsoir monsieur Davido.
Bonsoir à tous.
Vous êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré, c'est à Garches. Je vais vous poser la question à tous les deux. Il a raison Guy, est-ce que la crainte c'est que quand on lâche un peu le ressort, on lâche tout à la fois en fait, et qu'on ne prenne plus garde aux gestes barrières désormais? Frédéric Adnet.
Oui, effectivement, c'est une crainte, mais si vous voulez, on est arrivé, avec la diminution de l'épidémie, on est arrivé à l'hôpital à retrouver nos capacités d'avant-crise, hein, puisque je vois dans mon hôpital, qui est dans le département qui a été le plus impacté d'Île-de-France, c'est-à-dire la Seine-Saint-Denis, nous n'avons pratiquement plus de patients Covid aux urgences. En réanimation, il reste quelques patients Covid qui sont des patients de longue durée, et dans les services d'hospitalisation, il n'y a pratiquement plus de patients Covid. Donc si vous voulez, l'hôpital est revenu dans une situation normale. Donc on est prêt, si vous voulez.
Et le baromètre, c'est vous. Depuis le début, le baromètre, c'est vous.
Exactement.
C'est la pression sur l'hôpital.
Et ce qui fait la dangerosité de cette épidémie, c'est les patients qui viennent à l'hôpital et qui meurent. Hein. Et donc là, on a retrouvé, si vous voulez, nos capacités. Alors, on est dans une forte décroissance de cette épidémie qui nous surprend même nous, hein,
médecins.
Alors,
j'allais vous poser la question, oui. On a l'impression que... Parce que je me souviens, j'ai déjà posé la question ici même, d'ailleurs. Au moment du déconfinement, tout le monde a dit, oh là là, on déconfine beaucoup trop tôt, on a encore des incidences très hautes, etc. Et subitement, paf, c'est tombé comme une pierre. On sait dire pourquoi?
Alors, il y a probablement plusieurs facteurs explicatifs. Bien sûr, il y a la couverture vaccinale, mais on sait bien que ça, à elle seule, elle peut pas expliquer une décroissance aussi rapide. Certains évoquent une saisonnalité de ce virus. Il y a les mesures barrières qui ont toujours été présentes. Donc, si vous voulez, c'est sûrement multifactoriel, mais c'est vrai qu'on s'attendait pas à une décroissance aussi rapide. C'est une bonne nouvelle. Ce qui nous permet, si vous voulez, de baisser encore un peu plus la garde. On est sur un déconfinement progressif. Là, la marche est un peu haute, puisqu'il y a n'y aura plus de masques à l'extérieur. Mmh. Mais je vous fais remarquer qu'à l'extérieur, la transmissibilité de ce virus, elle est très faible en aérosol à l'extérieur. Mmh. On ne va plus mettre le masque à l'extérieur. Bon, écoutez, moi, ça me fait pas peur. Le gouvernement a prévu quand même que dans les zones où la densité sera importante, même en extérieur, parce que la transmission par postillon, là, elle est toujours présente, on devra mettre le masque. Et le couvre-feu, écoutez, pas de couvre-feu à 23h. Moi, je préfère de voir les gens dehors après 23h que rassemblés dans des lieux clos où on sait que la transmission est maximale.
Benjamin Davidot, est-ce que d'abord vous, dans votre hôpital Raymond Poincaré de Garches, vous avez le même genre de conclusion? Aujourd'hui, vous n'êtes plus inquiet en termes de place en réanimation, en termes d'arrivée de patients Covid?
Écoutez, en tout cas, c'est évident qu'il y a une diminution des hospitalisations, mais il reste des malades. Nous, vous savez, on est toujours sur la garde, parce que comme vous l'avez suivi depuis maintenant plus d'un an, notre travail a été sans relâche pour toutes les équipes, donc la prudence est mère de sûreté. Mm-hmm. Mais clairement, on se dirige vers quelque chose qui semble être une fin de crise. Ensuite, la question, c'est est-ce qu'on veut qu'elle soit durable? Et comme Frédéric Hanel a très bien expliqué, ce qui va permettre d'embrayer, c'est la vaccination de masse. Et on se dirige pas très loin d'un scénario d'une maladie en plusieurs vagues qui s'atténue avec ce joker qui est une vaccination en un temps record.
Donc le danger, au fond, Benjamin Davidot, c'est plutôt que les gens se disent « puisque ça va mieux, je suis moins pressé de me faire vacciner, donc j'attends ». Le danger, il est peut-être surtout là, en fait.
C'est exactement ça. Vous avez fait une excellente synthèse que j'ai écoutée avec beaucoup d'attention en démarrant l'émission. Et je répondrai, si vous me posez la question, sur le variant Delta avec grand plaisir, parce que c'est là-dessus où il y a beaucoup de confusion.
Et ben,
pour le fond, c'est ça.
Voilà, on va y aller au variant Delta, justement, puisqu'on a un auditeur sur franceinter.fr qui nous dit « je trouve que le pari est bien risqué face à l'arrivée du variant indien. Donc, dit-il, la France suit l'évolution de la Grande-Bretagne avec quelques semaines de décalage. Donc, ok pour les restos, dit-il, les concerts et autres. Mais on ne devrait pas tout relâcher d'un coup. Pour ma part, dit cette personne, je continuerai à porter le masque en extérieur. » Puisque vous avez commencé là-dessus, Benjamin Davidot, c'est vrai, notre auditeur a raison sur un point, ou plusieurs d'ailleurs. On suit les Anglais, en général. En tout cas, on a une évolution. Ils sont un peu en avance sur nous, les pauvres. Ils ont eu leur variant britannique d'abord. Ils ont dû refermer, donc, un peu en catastrophe. Ils ont un variant britannique et indien qui est beaucoup plus fort que le nôtre pour l'instant. Est-ce que la crainte, c'est qu'on soit, nous, là où ils en sont, eux, dans quoi ? Un mois ? Deux mois ?
Moi, je ne crois pas à ce scénario pour la simple bonne raison que, non pas on est à une boule de cristal pour voir ce qui va se passer, mais la grande différence, c'est que nous, on a fait le choix d'une vaccination avec deux doses d'emblée. Souvenez-vous, on a très peu espacé les doses et surtout avec une vaccination qui aujourd'hui est majoritairement ARN messager. Et sans me tromper, c'est 99% des vaccins réalisés. Mmh. Et c'est pour ça que votre constat et votre question... Et finalement, la seule qu'on doit se poser, c'est ne surtout pas baisser la garde dans une situation d'euphorie qui nous amènerait finalement en disant « il n'y a plus de masque à l'extérieur, il n'y a plus de couvre-feu, donc c'est le monde d'avant », à rester dans une situation statique qui, pour le coup, nous conduirait à une situation difficile à la rentrée.
Est-ce qu'on peut dire, Frédéric Adnet, est-ce qu'on s'avance trop si on dit que l'une des raisons pour lesquelles le Royaume-Uni a une crainte en ce moment, c'est, alors d'abord parce qu'il y a une population indienne, des allers-retours, etc., une sociologie tout simplement qui fait qu'il y a peut-être plus de variants indiens chez eux, mais aussi que ils ont beaucoup vacciné en première dose et en première intention, j'allais dire, pas forcément en deuxième dose encore.
D'abord, l'inquiétude en Angleterre vient d'un constat. Il y a un rebond épidémique. Hein. Ils étaient à un niveau extrêmement bas et là, depuis une bonne semaine, ça remonte. Donc c'est ça qui inquiète. Après, il y a les éléments explicatifs. Qu'un variant remplace un autre, c'est tout à fait naturel. Mmh. C'est l'histoire naturelle des virus. Et que le variant indien soit plus transmissible que le variant anglais, c'est naturel puisqu'il va remplacer le variant anglais. Ce qui est important, c'est de savoir si ce variant indien entraîne plus d'hospitalisations, plus de malades en réanimation ou entraîne, si vous voulez, des formes plus graves. Apparemment, les premières observations disent que non. Probablement que le variant indien qui est à 2-5% en France va finir par devenir peut-être majoritaire, mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir une augmentation de l'incidence. Mm-hmm. Notre seule véritable arme, dont on sait qu'elle marche contre ce variant indien et dont l'a rappelé le docteur Davidot, c'est la vaccination. Mm-hmm. La vaccination par ARN messager, contrairement à l'Angleterre qui a une vaccination par AstraZeneca majoritaire, avec souvent une seule dose, cette vaccination ARN messager est efficace. Donc, et c'est là où vous avez bien perçu le danger. C'est-à-dire que lorsqu'on va commencer à réduire de plus en plus nos mesures barrières, les gens vont être rassurés, donc ils vont trouver un peu moins d'utilité à se faire vacciner. Les discours anti-vax vont peut-être prendre un peu plus d'ampleur, et ça, c'est une véritable crainte, alors que notre seule arme pour éviter un rebond épidémique à la rentrée, c'est évidemment dans une couverture vaccinale qui serait maximum.
Les patients qui entrent chez vous en ce moment, qui sont-ils en fait? Est-ce qu'on sait qui sont ces gens? Est-ce qu'on sait si ce sont des gens qui sont beaucoup plus jeunes encore que ce qu'ils ont pu l'être? Est-ce que ce sont forcément des gens qui ont une comorbidité? Aujourd'hui, ceux qui rentrent encore à l'hôpital,
aujourd'hui,
qui sont-ils?
Ils ne rentrent plus. D'accord. Ça fait une semaine que j'ai plus vu d'un patient Covid dans mes urgences. Mais par contre, si on peut parler de la troisième vague se caractérisait par le fait que les patients étaient plus jeunes, mais si vous voulez, en termes de gravité, on ne sait pas encore bien parce qu'on n'a pas les chiffres, mais comme les patients étaient plus jeunes, il y avait moins de mortalité, puisque quand on est plus jeune, on est moins fragile et donc on meurt moins à l'hôpital.
Et est-ce qu'on peut dire que ceux que vous avez, ceux qui sont encore en réa, sont des gens qui étaient en réa de toute façon, qui le sont depuis longtemps en fait? Alors, ou est-ce qu'il y a eu de nouvelles entrées réa?
Nos patients, je parle pour mon hôpital, mais on avait 50 lits de réanimation. Maintenant, on n'a plus qu'une vingtaine. Et on a 7 patients Covid. Parmi ces 7 patients Covid, un seul a été admis il y a une semaine. Tout le reste, c'est des patients, comme vous le dites, des Covid longs, c'est-à-dire des patients qui ont des séjours en réanimation très longs.
Bonsoir Pierre.
Allô ?
Pierre, lâchez votre verre. Bonsoir Pierre. Allô ? On vous écoute.
Oui, bonsoir. Alors, je voulais vous demander quelles sont les obligations des professionnels de la restauration et des bars. Parce que, dans la petite ville où je suis, dans les restaurants, ils sont extrêmement respectueux, pointilleux. Et hier, lors du match France-Allemagne, j'ai été très surpris du total non-respect des règles, au point que les deux propriétaires serveurs n'ont jamais porté le masque. Et il y en a même un qui a pris, pour ma menthe à l'eau, il a pris à pleine main des glaçons. Et donc, est-ce que dans un bar, c'est un lieu privé, les personnes ont le droit de faire ce qu'elles veulent, ou est-ce qu'elles doivent respecter la législation?
Oui, elles doivent le respecter. On parle bien d'extérieur, hein. Je voudrais qu'on rappelle ça, Benjamin Davido, très fermement auprès des gens qui nous écoutent. On est en train de parler de tomber le masque en extérieur, et uniquement en extérieur. Et pas dans les endroits où tout le monde est très serré les uns contre les autres.
Oui, vous avez raison de le préciser, car il ne va pas falloir faire d'amalgame. Il faudra beaucoup de pédagogie pour accompagner ces deux mesures qui sont quasiment conjointes sur le calendrier, pour ne pas tomber dans l'excès inverse, qui est que l'épidémie est terminée, parce que ça serait vraiment compliqué comme message.
On a une auditrice qui nous demande ceci. Le retrait du masque en extérieur concerne-t-il aussi les enfants dans les cours de récréation, puisque théoriquement, ils sont dans un espace extérieur, mais nombreux et très concentrés. Et en effet, vraisemblablement, Monsieur Davido, les enfants ne sont pas concernés. Est-ce qu'on peut se dire que c'est une précaution supplémentaire? Est-ce qu'on pourrait demander aux enfants à terme d'enlever leur masque dans la cour de récré?
Je pense que de toute façon, on va y venir. Il va falloir voir justement les situations dites exceptionnelles, justement, qui, à contrario, eux, nécessitent la poursuite du port du masque. Typiquement, il y aura les endroits semi-confinés, un peu comme les marchés, les files d'attente, toutes ces situations-là. Mais encore une fois, je tiens à répéter que si la possibilité de faire tomber le masque à l'extérieur est possible, c'est grâce aux chiffres excellents et en partie à plus de 50% de primo-vaccinés, et qu'il faut vraiment pas tomber dans une situation de triomphalisme. Il faut qu'on aille de l'avant, il faut qu'on continue à vacciner massivement.
35 millions de doubles dosés à la fin du mois d'août en l'état, Benjamin Davido. Si on est toujours sur la même ligne, ça vous semble accessible, atteignable?
Ça me semble absolument atteignable. Simplement, il va falloir se réinventer pour être attractif, être dans la séduction, pour capter ces jeunes qui veulent être vaccinés mais qui seront difficilement captifs. Parce qu'il y a la fin du baccalauréat, parce qu'il y en a qui vont partir en vacances. Et une des stratégies extrêmement intéressantes, qui permettrait même de faire plus encore, c'est celle de rapprocher les doses comme initialement c'était prévu, c'est-à-dire la première dose puis à 3 semaines, pour atteindre, et vous avez raison de le préciser, ce chiffre de 2 doses, parce que c'est bien 2 doses qu'il faut avoir reçues pour avoir une protection maximale, et c'est non négociable face au variant indien dont on parlait tout à l'heure, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on ait un coup d'avance sur le virus, contrairement aux Anglais.
Rapprocher les doses, Frédéric Adnet, c'est aussi une manière de précisément ne pas se laisser rattraper en fait par le variant indien. Plus tôt tout le monde aura 2 doses, moins il sera efficace. C'est des choses qu'on commence à entendre beaucoup. Ramener Pfizer à 4 semaines.
Oui, notamment. Tout à fait. Mais je vous rappelle que dans l'expérimentation du vaccin ARN, les deux premières doses étaient séparées de 21 jours. On a rallongé ce temps parce qu'on n'avait pas assez d'approvisionnement. Et je crois qu'il faut revenir à 21 jours. C'était le mode vaccinal initial. Donc, Donc on prend aucun risque, puisque c'était comme ça qu'a été validé ce vaccin. Et je pense que c'est surtout en direction des jeunes pour prévoir les vacances, parce que les jeunes partant en vacances, ils ne pourront pas avoir leur deuxième dose. Donc je pense que c'est une bonne stratégie. Scientifiquement, ça se défend parfaitement parce que le vaccin a été expérimenté avec ces 21 jours qui séparaient les deux doses. Et puis ça va arranger les choses pour les jeunes qui vont partir en vacances.
Deux questions pour vous, Benjamin Davido. D'abord, rassurons ceux qui nous écoutent et qui ont eu un vaccin ARN à 6 semaines. Ils ne sont pas moins protégés que ceux qui auront un délai de 4 semaines ou ont pu avoir un délai de 4 semaines au tout début de la vaccination. On est d'accord là-dessus?
Non, pas du tout. Et d'ailleurs, ce qui nous a conforté pour le faire au-delà des stocks à l'époque, c'est qu'on avait avancé grandement. On était passé des personnes les plus vulnérables, les plus âgées, à des personnes plus jeunes, sur lesquelles on peut largement le faire. Après, la question, c'est à quelle date veut-on atteindre la ligne d'arrivée? Je crois que le plus tôt on l'aura atteint, le mieux ça sera, surtout si on a les doses.
On a Martine qui nous dit ceci, et c'est pour vous. Visiblement, la vaccination AstraZeneca est beaucoup moins efficace que les vaccins ARN pour le variant Delta. Ne faudrait-il pas envisager dès maintenant une troisième vaccination Astra dès la rentrée?
Alors, je comprends pas pourquoi elle dit une troisième vaccination Astra. Je crois que la réponse, c'est la vaccination hétérologue, c'est-à-dire de faire le panachage des vaccins, de passer d'une dose d'Astra à une deuxième dose de Pfizer.
Mais
ou
si on a déjà été, là, je pense qu'elle a été double dosée, Martine, AstraZeneca, en fait.
Eh bien, la question qui va se poser, en effet, ça va être non pas une troisième dose d'AstraZeneca, et c'est ce que c'est d'expérimenter les Anglais, donc on aura des réponses, mais c'est probablement une vaccination dès l'automne, pour ces gens-là, à base d'un nouveau vaccin qui, vous le savez, va arriver au-delà des techniques de vaccination. On va avoir des vaccins basés sur le variant qui s'appelait le sud-africain auparavant et qui permettra d'avoir un vaccin très robuste, encore plus immunogène que celui qu'on a actuellement.
Est-ce qu'on sait déjà, vous avez parlé de l'automne, est-ce qu'on parle là de l'automne de ceux qui ont été vraiment les tout premiers vaccinés, ou est-ce qu'on se dit que ce sera un reviens-y pour tout le monde, y compris ceux qui ont été vaccinés un peu plus tardivement? Est-ce qu'on sait comment ça peut s'organiser s'il y a besoin de troisième zone, Benjamin Davido?
Alors c'est toujours difficile, je pense que d'abord, il va falloir voir surtout comment se profile l'épidémie en France, mais aussi à l'extérieur, puisqu'on l'a dit tout à l'heure. Finalement, on a une sorte de rétroviseur qui nous permet de voir comment les choses vont évoluer. Mais clairement, si je devais me prononcer, la logique voudra qu'en tout cas, on propose cette vaccination aux plus vulnérables, de fait, les premiers vaccinés, pas tellement pour une raison de temporalité, mais pour une raison, finalement, de bien couvrir ces différents variants. Et clairement, la question qui va se poser, c'est de rattraper les gens qui ont la vaccination Astra, si les données se confirment et qu'on a une vaccination à deux vitesses. Moi, je plaide depuis longtemps pour une vaccination que j'appelle universelle à l'ARN messager. Et je me félicite qu'aujourd'hui, les Français réclament de l'ARN messager.
Bonsoir, Patrice.
Bonsoir.
On vous écoute.
Merci. Je me demande s'il n'y a pas un excès de confiance ou une euphorie prématurée. Si je compare les chiffres à date entre juin l'année dernière et la date de cette année, on a encore un nombre de morts quotidien supérieur à celui de l'an dernier, ce qui nous amène à 110 000 morts totalisés sur un an, plus d'un an bien sûr. Et d'autre part, on a encore un taux d'incidence supérieur au taux d'incidence à la même date l'année dernière, donc ça n'est pas prématuré.
Merci pour votre question, Patrice. Frédéric Adnet, il a raison. Patrice, on est revenu à des taux qui ressemblent à ceux de la fin de l'été.
Il a parfaitement raison. On est, si vous voulez, encore à des niveaux supérieurs à la même date d'il y a un an. Ce qu'il faut regarder d'abord, c'est la tendance. On est vraiment dans une tendance à une décroissance. Il faut regarder, si vous voulez, la pente de la courbe, et on est dans une pente qui est tout à fait optimiste, et on est dans une décroissance rapide. La deuxième remarque, c'est que la situation n'est pas comparable en termes d'immunité collective. L'immunité collective de la population française à la date d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'immunité collective de la population française il y a un an. Dans cette immunité collective, il faut compter évidemment les patients vaccinés, mais aussi ceux qui ont fait la maladie. Et tout ça nous donne quand même, si vous voulez, nous médecins, un certain optimisme, même si il a raison de le faire remarquer votre auditeur, le niveau en nombre absolu est quand même supérieur à ce qu'on avait l'année dernière à la même date.
On n'est pas à zéro. Alors vous vous souvenez qu'au moment du pic de l'épidémie, il y avait eu une bataille d'experts, de médecins sur ceux qui étaient favorables au zéro Covid et ceux qui l'étaient moins et qui pensaient que c'était impossible. À partir du moment où on revient notamment au fameux taux de 5000 contaminations, pas plus par jour, qui était censé être un objectif bien antérieur, à partir du moment où on peut maîtriser en fait chaque cas, est-ce qu'on remet cette histoire de zéro Covid sur le tapis? Est-ce qu'on se dit que oui, c'est un objectif désormais qu'on peut inscrire dans le marbre et vers lequel on peut tendre?
En tous les cas, ça remet, si vous voulez, ça redonne une dynamique à la procédure tester, isoler. et séquencé. Mmh. C'est-à-dire qu'on sait que cette technique, elle est d'autant plus efficace que l'incidence est faible. C'est-à-dire que quand vous avez un pays qui est complètement submergé par le virus, ça sert à, on sait qu'on n'arrivera pas à isoler et à freiner l'épidémie.
Et on n'a jamais su le faire, d'ailleurs.
Et on n'a jamais su le faire. Par contre, dans la situation que l'on vit actuellement, avec une incidence extrêmement basse, on a tout intérêt à redynamiser ces procédures d'isolement, de tests et de séquençage pour pouvoir essayer de maîtriser, diminuer la transmission de ce virus.
Et c'est peut-être ce qui va être aussi difficile, Benjamin Davido. On n'a jamais réussi, effectivement, on le disait à l'instant, à tracer. On n'a jamais vraiment réussi à imposer très correctement les quarantaines, comme ont pu le faire d'autres pays, pas forcément loin de nous d'ailleurs. Sincèrement, effectivement, avec un chiffre plus bas, c'est plus facile. Est-ce que ça vous semble possible et envisageable, ou est-ce que là où ça devient très très compliqué depuis votre fauteuil d'infectiologue, c'est que de toute façon on a un mal fou à faire admettre ça aux gens, et plus l'incidence descend, plus ça va être compliqué d'expliquer que on va devoir s'isoler pendant 7 à 10 jours si un proche a été atteint par le Covid.
Je pense qu'il y a plusieurs réponses à cette question. La première, c'est, vous avez raison, la communauté avait été divisée face à zéro Covid ou laisser circuler le virus. La réalité, c'est que on va pas vraiment avoir le choix. C'est-à-dire que c'est le virus qui va choisir, et que très probablement, de mon point de vue, le virus, il est là, il fait partie des coronavirus, ce sont des familles, des espèces, et ça sera la grippe du 21e siècle. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que finalement, si on doit vivre avec lui, et c'est ce que je crois, comme vous l'avez compris, il faut le dresser, il faut le dompter. Et pour le dompter, comme l'expliquait Fred Haganet à l'instant, on a une chance, c'est qu'à moins de 5000, on sait que manuellement, et surtout avec un outil numérique, on est capable de le dompter, de l'apprivoiser. Et vous voyez où je veux en venir, l'outil numérique qu'on a aujourd'hui, au-delà du traçage et de l'isolement, c'est ce fameux passeport sanitaire qui vraiment nous permet d'avoir des interactions en toute sécurité, et ça, c'est une révolution.
Où est-ce qu'on en est, je vous poserai la question aussi à vous, Frédéric Adnet, où est-ce qu'on en est chez vous de la vaccination des soignants, Benjamin Davido? Est-ce que c'est toujours un sujet? Est-ce que c'est un sujet qui est derrière nous?
Écoutez, vous tombez bien, parce que il y a un peu plus d'une heure, on était là en train de fêter l'objectif atteint de 1000 sur 1600. Donc on a vacciné plus de 60% dans l'établissement.
Qui sont ces 600 personnes?
Alors voilà, vous savez, il y a eu aussi beaucoup de vacataires, il y a des gens qui sont venus aider, donc vous savez, on a compté tous les gens depuis le début de la vague, il y a des gens aussi sur lesquels on n'a pas pu avoir le dessus et qui ont été vaccinés en dehors de l'hôpital pour un certain nombre. Mm-hmm. Mais en tout cas, l'objectif est atteint, on peut s'en réjouir, et tout de même 90% des médecins, c'est vraiment un excellent score quand on voit par rapport aux autres vaccinations habituelles, et je pense que la mission d'exemplarité a été largement accomplie.
De votre côté aussi, Frédéric Adnet, à l'hôpital Avicenne à Bobigny, est-ce que vous avez le sentiment que c'est derrière nous, cette histoire de soignants réticents?
Écoutez, on est dans des chiffres voisins. Il reste, et ça je peux pas le nier, reste quand même une petite partie de soignants qui refusent la vaccination, mais qui est vraiment très très minoritaire. Les chiffres que l'on a sont d'ailleurs probablement sous-estimés, parce qu'il y a des soignants qui vont se vacciner, et quelques médecins qui se font vacciner en dehors de notre centre de vaccination, donc qui échappent à la statistique. Mais on a une très bonne couverture vaccinale, à tel point qu'actuellement, dans nos centres de vaccination au sein de notre hôpital, on propose aux visiteurs, aux proches, aux personnes en salle d'attente de venir se faire vacciner, parce qu'on a des plages de libre, et on propose à tout azimut, à toute personne venant à l'hôpital pour voir un de leurs proches, de se faire vacciner en attendant des examens.
Et ça marche, ça, ou pas?
Et ça marche.
Cette espèce de vaccination spontanée, en fait, de gens qui n'ont pas fait la démarche, mais puisque la piqûre est là, ben allez-y.
Ça marche parce qu'on a des plages libres, et puis que c'est très facile. Et à peine il est rentré dans les locaux qu'on va lui faire sa vaccination. Et ça surprend assez, parce que en France on a l'habitude de processus administratifs extrêmement lourds. Et là on voit qu'on a pratiquement un open bar pour se faire vacciner, et ça marche pas mal.
C'est peut-être ça d'ailleurs, la solution et la clé pour vacciner ceux qui sont encore réticents. Comme vous dites, c'est l'open bar, c'est-à-dire une facilité. C'est déjà pas si compliqué que ça, mais une meilleure facilité encore nous permettrait d'avancer. Bonsoir Christophe.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Christophe.
Voilà, je suis médecin généraliste. J'ai commencé les vaccinations avec l'AstraZeneca, j'en ai fait déjà pas mal. Ce samedi, j'ai une vingtaine de vaccinations à faire. Par de l'AstraZeneca, ce sont les deuxièmes vaccinations. Or, ce que j'entends, c'est qu'il ne faut pas les faire, enfin, ou quasiment il ne faudrait pas trop les faire, et plutôt privilégier l'ARN messager. Or, le Moderna nous arrive à peu près un flacon tous les 15 jours. Je fais quoi? Je dis aux gens qui vont me dire, même si, docteur, non, ils ont dit à la radio qu'il fallait absolument faire de l'ARN messager en deuxième intention. Je suis coincé.
J'entends ce que vous dites, Christophe, et j'imagine que vous n'êtes pas le seul médecin généraliste à entendre ce genre de remarques. Benjamin Davido, vous qui êtes un très fervent de l'ARN, on a bien compris pourquoi. Qu'est-ce qu'il dit, Christophe, à ses patients?
C'est extrêmement compliqué. Nous, on a eu cette situation avec les soignants, comme vous le savez, parce que les premiers vaccinés y compris, alors la situation a été facile parce qu'on avait essentiellement beaucoup de jeunes dans le calendrier à ce moment-là. Et donc, la question ne s'est pas posée. De fait, ils ont eu une deuxième dose d'ARN messager. Mais on s'est trouvé dans une situation compliquée pour ceux qui avaient le choix, à contrario, et qui nous demandaient pourquoi l'un et pas l'autre, et qui parfois étaient accrochés à AstraZeneca. Mmh. Et ça, c'est parfois étonnant. Mmh. Et ce qu'on sait, c'est pas pour refroidir les gens par rapport à l'ARN messager, mais c'est que lorsqu'on va faire ce panachage de vaccins, à contrario, il y a un risque plus important d'effets indésirables bénins qui souvent freinent certaines personnes. Donc je crois qu'il faut rester dans la situation du cas par cas, il faut discuter. Et ensuite, si vraiment les gens sont accrochés à cette deuxième dose d'ARN messager, à ce moment-là, bien, malheureusement, il faut les adresser sur un centre de vaccination qui pourra réaliser cette deuxième dose.
Et parfois, c'est pas si simple, Frédéric Adnet. Le problème, c'est que moi, je voudrais que les gens qui ont été vaccinés deux fois à l'AstraZeneca n'imaginent pas qu'ils ont été sous-vaccinés par rapport à d'autres.
Non, mais il faut pas diaboliser l'AstraZeneca. L'AstraZeneca a souffert depuis sa mise sur le marché d'une campagne de communication qui était un peu catastrophique et qui est là très mauvaise presse. Il suffit de voir et d'aller dans les centres de vaccination pour voir que les gens sont très réticents à se faire vacciner par l'AstraZeneca. L'AstraZeneca était un vaccin qui marche. Et si vous voulez, l'ARN messager marche tellement bien que effectivement l'AstraZeneca marche bien comme un bon vaccin classique, mais un petit peu moins bien, et notamment sur le variant Delta, le variant indien, un peu moins bien que l'ARN messager. Mais on a été tellement, si vous voulez, étonnés par les performances des vaccins ARN messager que ça éclipse un petit peu le vaccin AstraZeneca, qui est un très bon vaccin, qui marche très bien, mais qui a des performances, effectivement, d'un bon vaccin, mais un peu inférieur à celui de l'ARN messager.
Un petit peu moins bien, parce qu'encore une fois, je veux pas qu'on fasse peur à ceux qui ont été vaccinés deux fois à l'AstraZeneca. Ça ne veut absolument pas dire qu'une forme grave est possible, ça ne veut absolument pas dire...
Non, il marche très bien.
Alors voilà, vraiment que les choses soient très claires là-dessus. Par ailleurs, plus on est cerné par des ARN, si je puis dire, moins il y a une chance qu'on, de toute façon, on est ce variant indien, y compris quand on a été vacciné deux fois à l'AstraZeneca. Voilà, donc fréquenter des gens qui ont été vaccinés eux-mêmes et à l'ARN messager, peut-être que ça vous aidera à vous rassurer en tout cas. Sarah, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Sarah.
En fait, j'enseigne à des adultes et on va reprendre les cours en présentiel dans pas longtemps. Et on se demandait si le port du masque, une fois assis, étant donné qu'on aura aussi de la distance entre les personnes, est-ce que ce serait raisonnable en fait d'envisager d'enlever le masque un petit peu pendant nos cours ou pas du tout, sachant que beaucoup de mes apprenants sont vaccinés. Moi, juste une dose, mais la plupart les deux. Donc, voilà.
C'est une bonne question, Benjamin Davido, parce que la tentation, nous l'avons tous. En fait, chacun dans nos bureaux, on passe notre temps à nous demander combien t'as eu de doses, où tu en es, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à Sarah, même si elle le dira à personne?
On peut lui répondre de quelque chose qui existe déjà. Je vais rien inventer. Ce sont les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui ont maintenant plus de 2 mois et qui disent qu'à partir du moment où on est jusqu'à 6 personnes vaccinées en intérieur, du moment que la pièce est bien aérée, on peut être sans masque. Et donc, c'est ce qu'on fait d'ailleurs régulièrement entre médecins à l'hôpital.
Et ben voilà, comme ça, Sarah, surtout, ouvrez les fenêtres. Bonsoir, Robert.
Oui, bonsoir à tous.
On vous écoute.
Mais écoutez, moi, j'aimerais savoir s'il ne serait pas intéressant de laisser les plus jeunes, disons, les moins de 30 ans, allez, pour faire simple, aller venir sans aucune restriction, plutôt que de les vacciner, disons, de les laisser à la limite se contaminer, puis qu'il n'y a pas de gêne médical à ce qu'ils soient contaminés, et qu'une fois contaminés, ils participent à l'immunité collective de façon au moins aussi efficace que les vaccinés, si ce n'est plus, puisque le contaminé ne sécrète plus de virus à partir de la 3e semaine, alors qu'un vacciné peut, être contaminé et cracher du virus. Donc c'est du simple bon sens, ça pourrait gagner du temps, de l'argent, et ça laisserait libre les plus jeunes.
Merci beaucoup, Robert. Frédéric Adnet, ça aussi c'est une question qu'on a tournée et retournée sur l'immunité des plus jeunes, et puis finalement la clé, on finit par se dire qu'elle est dans le vaccin de toute façon.
Oui, malheureusement c'est une fausse bonne idée, et puis c'était un espèce d'espoir qu'on avait eu, rappelez-vous, à la première vague où certains disaient, laissons contaminer les jeunes, comme ça on atteindra une immunité collective plus rapidement. Deux choses chose. De laisser contaminer les jeunes, ça amène des contaminations secondaires dans la cellule familiale des sujets plus fragiles, et les sujets plus fragiles ne sont pas tous vaccinés. D'autre part, et ça les études l'ont bien montré, le vaccin apporte, le vaccin complet, hein, je parle de deux doses, voire le vaccin une dose chez un patient qui a déjà fait le Covid, amène une immunité qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus longue que la simple maladie, surtout la forme que font les jeunes, c'est-à-dire des formes post-symptomatiques ou peu symptomatiques. Donc non, on a tout intérêt à miser sur le vaccin. On est sûr, si vous voulez, de son efficacité, et les premiers travaux montrent quand même que l'immunité qu'il génère est quand même plus importante et plus durable que la simple maladie, surtout si c'est une forme bénigne.
Benjamin Davidot, Gisèle nous demande sur franceinter.fr, pourquoi ne parlez-vous jamais du Janssen? Je suis vaccinée avec ce vaccin et du coup je ne sais plus si je dois faire une seconde dose et si oui, avec quel vaccin? C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a des oubliés du Janssen.
Vous avez raison. Alors il a été oublié parce que finalement il est arrivé au moment donné où il y a eu la mauvaise presse d'AstraZeneca et certains se sont posé la question, mais en tout cas ce vaccin reste sur un schéma une dose. Il a pas mal d'avantages et il a des données de robustesse très intéressantes, et je rebondis par rapport au fait que vous avez souligné un point très important tout à l'heure. Lorsqu'on parle d'efficacité, on parle d'efficacité globale, c'est-à-dire d'avoir le nez qui coule jusqu'à se trouver en réanimation. Évidemment, la seule chose qui compte aujourd'hui, c'est la capacité des vaccins à bloquer les formes graves, et ils sont tous très efficaces face à ces formes sévères de la maladie.
Si d'aventure on réalisait qu'il fallait, quand on a été vacciné au Johnson, qui est censé être un vaccin une dose, effectivement qu'il en fallait une deuxième, peut-être au moment où pour d'autres, il en faudra une troisième. Hein. Mais est-ce que ça veut dire qu'on pourra à ce moment-là faire des mélanges ou retrouver une dose Janssen à nouveau? Est-ce que c'est selon, en fait? Est-ce que ça marche comme l'Astra? On peut faire un double ou on peut panacher, pardon de le dire comme ça, Benjamin Davidot?
C'est amusant, tout à l'heure on parlait des open bars, j'ai l'impression, vous savez, qu'on est dans le film avec Tom Cruise où on va secouer dans un milkshake. Alors en fait, il y a une étude américaine, d'ailleurs ça va bien avec Tom Cruise, qui a commencé et qui teste toutes les combinaisons possibles. Là pour le coup, c'est Jean Bray sur le côté casino.
Ouais.
Et on a des choses extrêmement surprenantes. Pour l'instant, on n'a pas les résultats, et donc on aura les résultats de toutes ces combinaisons et les gens pourront choisir ensuite.
D'accord, bah on verra à ce moment-là. Soyez patiente avec votre Johnson. Mais vous n'êtes pas toute seule. Je voudrais dire que l'un de nos réalisateurs, Fabrice, a été vacciné au Johnson à la maison, ici d'ailleurs, puisque c'était plus facile à conserver. Bonsoir Cécile.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors voilà, en fait, moi j'ai une question par rapport au changement de centre de vaccination, parce que j'ai ma fille qui est étudiante à Toulouse. Et donc, il s'est fait vacciner hier. Donc là, elle va rentrer chez nous pour les vacances. Et en fait, la deuxième dose, c'est fin juillet. Et c'est une semaine où on est censé être en vacances. Mmh. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas changer de centre de vaccination? Ça faciliterait vraiment les choses, quoi.
Alors, je peux, mais je pense que vous pouvez, en fait. Mais moi, je suis un peu intriguée, puisqu'ici, elle s'est fait vacciner hier. Et que la deuxième dose, c'est fin juillet. Ah oui, 4 semaines. Pardon, oui, on est déjà à la fin. Oui, un peu plus, même 6 semaines. En fait, peut-être qu'on peut essayer de ramener les doses. C'est peut-être ça la solution, Frédéric Adnet.
Oui, c'est théoriquement possible, puisque de toute manière, les centres de vaccination déclarent à la Sécurité sociale, à MLI, donc les vaccinations. Et probablement que les connexions peuvent se faire dans différents centres de vaccination. Mais c'est vrai que c'est un schéma qui n'avait pas été anticipé lors de la création de ces centres de vaccination. Et c'est vrai que malheureusement, on donnait toujours les deux rendez-vous pour le même centre. Mais à chaque fois qu'on vaccine un patient, on le déclare sur une banque de données qui est la Sécurité sociale, qui est Amélie, et il est, à mon avis, complètement possible de se faire vacciner sur la deuxième dose à un autre centre de vaccination en se connectant justement sur ce
centre. C'est plus compliqué.
Mais c'est vrai que ça n'a pas été bien anticipé, ce changement de centre, et je crois qu'il faut faire un effort de communication, parce que je pense que c'est possible.
Vous avez essayé, Cécile, est-ce que vous avez fait chou blanc pour l'instant, ou comment ça se passe?
Non, j'avoue, j'ai pas essayé de reprendre un autre rendez-vous, quoi, là où on sera en vacances. Quoi, j'avoue, j'ai pas essayé.
Bah écoutez, mon conseil, c'est d'essayer d'en prendre une autre, mais de ne pas annuler la précédente, en gros, pour éviter, voilà. Mais essayez toujours. J'ai cru comprendre. Vous allez m'arrêter si je me trompe. Peut-être que vous avez eu des cas similaires, Benjamin Davidot. J'ai cru comprendre qu'on l'avait envisagé un temps, notamment sur les plateformes, et puis que ça devient effectivement compliqué. Donc c'est un peu difficile pour les gens qui le souhaitent, et que l'une des solutions, effectivement la meilleure solution, c'est de rapprocher les doses plutôt que d'essayer d'avoir deux piqûres très éloignées.
Clairement, c'est l'illustration de ce qu'on a expliqué, c'est-à-dire que là, il y a un acte très citoyen qui est de dire protégeons-nous les uns les autres et donc soyons protégés avant de se retrouver, avant les brassages de population. Donc on voit bien qu'il y a un besoin, il faut répondre à ce besoin. Et puis au-delà des centres vaccination, je rappelle qu'il y a des possibilités maintenant qu'on arrive à conserver mieux les vaccins ARN messager, de faire, y compris chez son médecin ou dans sa pharmacie de quartier, une dose de vaccination Moderna, par exemple. Donc il faut essayer de passer les bons coups de fil et de s'organiser. Et puis le site VitMaDose qui peut aider à débrouiller des situations compliquées.
Voilà, il y aura sûrement des cas comme ça, de toute façon, au cours de l'été. Peut-être qu'on en saura un peu plus. Bonsoir Camille.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Camille.
Merci beaucoup de prendre la question. En fait, c'est tout simple. Je suis une maman qui allait, et quand je suis allée en pharmacie pour me faire vacciner, mon pharmacien m'a dit que c'était pas conseillé, qu'il valait mieux attendre la fin de mon allaitement. Et du coup, je suis surprise de sa réponse et j'aurais voulu l'avis de votre invité.
Eh bien, écoutez, il va vous le donner tout de suite, Frédéric Adnet. Allez-y.
Aucun risque, aucun risque. Les études ont été faites sur des mamans allaitantes et aucun risque. Et en plus, les anticorps passent dans le lait maternel et donc peuvent participer à une protection du bébé. Donc non, il n'y a aucun risque chez les femmes allaitantes à se faire vacciner, comme il est conseillé de le faire pour les femmes enceintes, puisque on sait que le Covid chez les femmes enceintes font plus volontiers des formes graves, et donc les femmes enceintes ont tout intérêt à se faire vacciner, et les femmes qui allaitent peuvent se faire vacciner sans aucun problème.
Ce que ça veut dire, ce que nous dit Camille, c'est qu'il y a peut-être encore des explications à donner, notamment aux pharmaciens et aux médecins généralistes, parce que là, en toute bonne foi, j'imagine, le pharmacien a hésité, voulant pas faire de mal à Camille. Oui. Donc ça veut dire qu'il ignorait en fait qu'on était à 0-0 danger.
Oui, mais vous savez, on a toujours un principe de précaution en France, notamment chez les femmes enceintes, chez les femmes allaitantes, chez les enfants, etc. Bon, là, les études sont faites, elles sont pas encore passées vraiment dans les recommandations, mais je n'ai lu aucune étude qui mettait en cause la vaccination chez les femmes allaitantes. Donc non, elle peut être assurée.
Benjamin Davido, Louise nous demande si le quota des 6 personnes à table en terrasse, qui pour l'instant est conservé, vous semble toujours d'actualité. Est-ce qu'il est toujours nettement préférable, voire dangereux, d'augmenter le quota? Je parle de l'extérieur, encore une fois.
J'ai compris, c'est une bonne question. En fait, ce qu'il faut comprendre, et souvenez-vous, c'était la question qu'on s'était posée finalement l'été dernier, où certains annonçaient la reprise d'une vague tout de suite en plein mois de juillet, et étaient étonnés que les rattroupements en extérieur n'avaient pas créé ces situations. C'est qu'en fin de compte, lorsque vous allez en terrasse de restaurant et que vous êtes en général 6, vous êtes avec un cercle qu'on va appeler le premier cercle. Souvent, votre famille, vos très proches. Et le plus vous agrandissez ce cercle, le plus vous mettez dans des situations où vous allez augmenter la probabilité de contamination. Donc, je crois qu'il ne faut pas amener à ce genre de rassemblement. Et ensuite, on verra, est-ce que le bon chiffre, c'est entre 6 et 10? Les Américains vont jusqu'à 10. Ça sera modulé en fonction de l'évolution de l'épidémie.
Voilà, profitons des choses les unes après les autres, si tout va bien. Si tout va bien, on ira en augmentant. Je voudrais vous laisser avec ce mail de Nicolas qui dit une pensée pour celles et ceux qui ont pris l'habitude d'éternuer dans leur masque dans la rue et qui vont avoir de belles surprises en éternuant dans leurs mains et sans le faire exprès. Il dit je me compte dedans. Oui, ça c'est un effet secondaire effectivement de la fin du port du masque. Merci vraiment à tous les deux. Merci à tous pour vos nombreuses questions.